Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine, je t'accompagne sur les vagues de ta vie de freelance pour t'aider à te poser les bonnes questions, celles qui te font vraiment avancer dans ton projet d'indépendant. Cette semaine, on va justement tacler une de ces questions que beaucoup de freelance ou d'indépendants se posent à un moment ou à un autre de leur activité. Cette question, c'est: est-ce que je me vends sous mon nom propre ou avec un nom de marque? Alors, il y a pas mal d'articles qui tournent sur ce sujet, chacun vantant les mérites de chacune des options avec leur propre argument très bien construit. Et du coup, dans cet épisode, j'avais vraiment envie d'aller au bout de ces réflexions pour que tu puisses enfin trouver ta réponse. Et pour ça, j'ai invité Lauriane Fressy, que vous connaissez peut-être sous son alias de Lauriane Reine sur Twitter. Et Lauriane se présente comme la CEO de Louven Partners, une agence d'influence parisienne, alors qu'en réalité, Lauriane est indépendante comme vous et moi. Elle a simplement décidé de se vendre sous un nom de marque plutôt qu'en son nom propre. Quand j'ai échangé avec elle, j'ai trouvé son approche assez intéressante, notamment parce que, personnellement, j'ai l'approche totalement opposée. Où du coup, mon nom, Thomas Burbidge, est la marque sur laquelle je mets le plus d'importance dans le développement de mes projets. Je t'en parle un peu plus dans l'épisode pour t'expliquer ma réflexion, mais encore une fois, le personal branding, c'est un sujet à part entière qu'on traitera à un autre moment, et je pourrais aller plus loin d'ailleurs sur comment moi je construis les choses. Mais du coup, dans notre échange avec Lauriane, on explore toutes les implications de chacune de ces 2 options, ainsi que les questions à se poser pour que tu puisses enfin choisir pour toi quelle est la meilleure voie. Je te laisse donc te plonger dans l'épisode et on se retrouve de l'autre côté. Mais juste avant, oublie pas de me mettre une belle note sur Apple Podcast. Ce serait vraiment beau de ta part car bah, comme tu le sais, c'est ce qui m'aide le plus à développer ce projet du podcast et faire en sorte que d'autres freelances entendent ces beaux questionnements et puissent avancer eux aussi dans leur projet. Merci pour ça. Et sur ce, c'est parti. Salut Lauriane.
Salut.
Bienvenue sur le podcast.
Merci.
Je suis trop content de t'avoir. Il me semble, je suis pas 100% sûr de ça, mais il me semble que la première fois qu'on a échangé, c'était via Twitter, non?
Ouais, sûrement.
Je crois.
Sûrement. Je suis très très souvent connectée sur Twitter.
On s'en reparlera juste après. J'ai des petites questions sur ça. Mais du coup, pour nous lancer dans la conversation, première question rituelle que tu connais parce que tu es auditrice, c'est comment et pourquoi tu es devenue freelance? Je pense que le terme de freelance ne te parle pas forcément, c'est une discussion qu'on avait eue.
Complètement.
Donc plutôt indépendante, enfin bref, le terme qui te parle le plus, mais comment et pourquoi tu es devenue ça?
Alors, à la base, j'ai fait l'école de commerce de Bordeaux, qui s'appelle Kedge, et je pensais pas du tout un jour que je monterais une boîte. D'ailleurs, il y avait des cours d'entrepreneuriat, je trouvais ça intéressant, mais je te dis, c'est pas pour moi. Enfin, j'oserais jamais. Et puis, je me reconnaissais pas forcément là-dedans.
Ouais.
Genre, de faire un business plan, de devoir savoir à 3 ans, 5 ans, où est-ce que ma boîte allait aller, alors que j'étais juste en train d'écrire quelque chose sur un bout de papier. Pour moi, clairement, c'était impossible. Je me suis dit, avec Internet, tout ça, enfin, l'économie bouge. Je peux pas être à faire un business plan sur 5 ans. Je me souviens que j'étais allée voir mon prof de finance et je lui ai dit... En fait, je comprends l'exercice, mais je vois pas comment je fais, comment anticiper les problèmes qui pourraient arriver. Il fait « Ah non, mais tu fais un plan idéal et tout. » Et puis, on t'ajustera. Et puis, de toute façon, là, c'est un exercice, Lauriane, ne faut pas que tu te prennes la tête.
Ouais.
C'est très, très simple. Je fais « Ok, d'accord. » Mais je savais pas ce que je devais faire. Du coup, j'avais fait un business plan pour un service d'aide à la personne, pour les personnes âgées ou handicapées.
Mm-hmm.
Qui vivait à Clermont-Ferrand. Donc, aucun rapport. Et voilà. Du coup, en fait, j'ai un double master. Et à la fin de mes études, vu que j'étais à l'école de commerce de Bordeaux, je voulais travailler à Bordeaux.
Ouais.
Je trouve pas de stage, parce que je voulais travailler dans le monde du vin. Et bon, bref, travailler dans le vin, c'est un peu compliqué. Quand on n'est pas forcément issu de cette filière-là, de par sa famille, etc., etc. Et puis peut-être qu'il n'y avait pas d'opportunité à ce moment-là aussi. Je mets sur Twitter que je cherche des stages, etc.
Parce que tu es déjà sur Twitter
quand je suis déjà sur Twitter quand je suis à l'école. Parce qu'il y a un prof qui nous disait qu'il fallait être sur Twitter. Et du coup, je mets une bouteille à la mer. Il y a un mec qui s'appelle Fabrice Plazol qui envoie un lien de La Réclame et qui me dit « Regarde, il y a un stage chez Havas.
Ah oui.
Vas-y, ça peut peut-être t'intéresser. » Bon, du coup, j'arrive chez Havas. Au final, je suis prise, etc. Ça se passe très, très bien. Pendant un an, j'ai une boss incroyable qui s'appelle Florence Destan qui m'amène à plein d'événements, qui me fait découvrir en fait vraiment le milieu de la pub. Moi, quand j'étais en école de commerce, je savais même pas qu'il existait des agences de
pour
pub. Je croyais en fait que tout se faisait en interne. En fait, t'apprends pas ce genre de choses.
C'est clair que moi, à l'école aussi, j'avais un peu... Avant de découvrir ce monde des agences, j'étais en licence quand j'ai fait ma première alternance. Et du coup, j'étais en cabinet de conseil à l'époque, donc je connaissais pas du tout pareil. Et je me disais, mais en fait... Quand j'ai découvert ça, c'était comme un nouveau monde qui s'ouvrait.
Mais oui, complètement.
Du coup, t'étais pas du tout prédestinée.
Ah oui, pas du tout. Je devais, j'ai un double master en management avec une spécialité en marketing et du management international.
Ouais, parce que une de mes questions justement, c'était, t'as quand même avec tes premières expériences notamment pas mal baigné dans cet univers-là. Havas, est-ce que suite au stage, t'as un job là-bas?
Je suis restée pendant un an parce qu'on est un petit peu bidouillé et je voulais rester pendant un an et au final l'école a accepté alors qu'à l'époque, c'était 6 mois de stage normalement, mais bon bref, on arrive à faire en sorte de rester pendant un an. J'apprends énormément. En fait, j'ai de la chance qu'à un moment un responsable de compte s'en va et en fait je me mets à gérer une bonne partie un peu toute seule avec ma boss LCL, Sofinco, Before Bank, le magazine L'Équipe.
Et ça, c'est en stage. Du coup,
à gérer en fait le planning, enfin le planning média global de ces
chef de pub, quoi.
Voilà, exactement mes côtés agence.
Ouais.
Et c'était hyper intéressant. Mais bon, on arrive au bout d'un an où le stage est fini, ils me disent, malheureusement, Lauriane, pour le moment, il y a pas de d'opportunités chez Havas. Enfin, si, il y avait responsable social média, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Et en fait, un de mes collègues parle de moi à quelqu'un. Et en fait, il parle de moi à Anaïs, une fille qui bosse chez My Little Paris.
Ouais. Qui, du coup, la prochaine expérience qui arrive.
Et du coup, j'ai bossé. En fait, enfin, j'ai même pas eu envoyé de CV ni rien. Enfin, on se rencontre, ça fit. Je suis l'une des premières fois où ils embauchent quelqu'un sans prendre la personne par la case stage. Donc, ils me prennent en CDD. Ils me disent, c'est un CDD de 6 mois. Mais rien ne considère ça comme une période d'essai, mais on a envie de te garder, etc. 6 mois de stage, 6 mois de CDI, CDD, et je me rends compte que en fait c'est pas mon univers, que mes valeurs ne sont pas du tout les valeurs de My Little Paris. Je vais pas forcément m'étaler là-dessus, mais je me rendais compte que je pouvais pas travailler de cette façon-là.
Et là encore, c'était un métier de chef de pub.
Ouais, j'étais chef de pub. Ouais.
La pub sur les médias My
Exactement,
Little Paris,
exactement. Pour les agences Havas et Cara.
Ouais.
Et je faisais en sorte qu'il y ait des entreprises, des marques qui achètent des newsletters, qui font des petites bannières, etc. Et moi, j'étais hyper investie. En fait, j'avais envie de faire tous les métiers.
Ouais.
J'avais envie de vraiment, j'avais envie de tout faire. Et en fait, on me disait, non, mais Lauriane, c'est pas ta place. Lauriane, toi, t'es chef de pub, donc tu dois juste aller chez Havas, tu pitches My Little, tu donnes envie, et puis tu...
Puis on fait de la bannière, quoi.
Voilà. Et puis, enfin, non, mais pas que de la bannière. Enfin, c'est beaucoup de brand content, et moi, ça m'intéressait beaucoup. Mais voilà. Mais j'étais pas à être aussi chef de projet, illustratrice, etc., etc.
Est-ce que du coup c'est ça? Parce que là tu te dis, ok, My Little Paris, ça me va pas. Je vois que tu sais ce que je veux dire. Et c'est pas la pub, et c'est pour ça que tu vas vers Il était une pub juste derrière, du coup, pour avoir un peu plus cette casquette globale de gère un peu tout.
Ouais, en fait, c'est un petit peu aussi arrivé, mais vraiment complètement par hasard. Enfin, je sais pas si c'est par hasard ou des opportunités.
Ou la vie qui est bien faite.
La vie qui est bien faite. En fait, j'étais du coup encore chez My Little. Et Jean-Baptiste Delame, du coup, pour moi, qui était un peu un illustre inconnu, mais qui était, on avait amis d'amis, enfin bref.
Ouais.
Et qui me dit, oui, Lauriane, toi qui sais faire du brand content, qui sais faire des devis.
Ouais.
Comment on fait un devis pour vendre un article à une marque, à une agence, etc. Parce que j'ai un petit blog, qui est un petit blog d'étudiant, mais je sens qu'il y a du potentiel, mais je sais pas faire.
Je me souviens à l'époque, je suivais ça quand il avait commencé au tout début, parce que moi je viens d'études de com aussi, genre j'étais à Dauphine, je fais master communication marketing, et du coup à un moment j'étais à fond sur ça, tous ces blogs là, We Need Caffeine, Il était une pub, Créapils, tous ces trucs là.
Ouais, j'ai un peu de com, Qui sont que des copains.
J'imagine que c'est un tout petit monde, quoi.
Ouais.
Et du coup, toi, tu rejoins l'aventure alors que c'est un blog qui commence
à tourner.
Ça fait
déjà 6 mois, 1 an qu'il a son blog, ça fonctionne bien.
Il veut passer la part monétisation.
Il veut monétiser et en fait, il a envie de passer un step, quoi.
Ouais.
Et puis, moi, au début, j'ai pas envie de l'aider. Enfin, je fais, oui, bah, c'est bien, David et tout. Mais bon, moi, je veux juste changer de taf. Donc, je vais peut-être partir chez Combini ou Topito. Ouais. Des trucs qui me ressemblent un peu plus. Et puis, je fais, bon, au final, j'arrête mon CDD et tout. Enfin, là, en plus, ma boss me dit, peut-être que t'es pas faite pour la pub, peut-être. Je fais, ah bon. Ok, devrais peut-être lancer quelque chose. Mais peut-être, toi, Lauriane, t'adores les burgers, tu devrais peut-être lancer quelque chose dans le monde des burgers. Mais bon, c'était un conseil un petit peu en l'air comme ça, mais du coup, je me suis dit, bah tiens, faut peut-être que je lance quelque chose. Et en fait, Jean-Baptiste est arrivé au bon moment, et en fait, moi, je déteste m'ennuyer. Et donc, bah, tout de suite, je me suis dit, bah attends, le pauvre, il sait pas faire de devis, moi, je sais faire ça, enfin, j'ai appris à les faire. J'étais allée à bonne école, et My Little Paris, ça a été une très, très bonne école pour ça. J'ai su vraiment, comment faire du brand content, comment l'amener un peu plus loin, et comment, avoir cette relation avec les clients, avec les agences, etc. Et là, du coup, je commence à l'aider. Je m'y mets à fond, en fait. Et en fait, j'ai pas envoyé de CV, de lettres de motivation à d'autres trucs. Je me suis tout de suite mise à l'accompagner, et en fait, dès que chaque jour, on voyait le résultat, on voyait le nombre de visites augmenter, on voyait le nombre de pages vues augmenter, on voyait un intérêt des gens qui posaient des questions, et c'était franchement stimulant. Et puis au bout de 6 mois, on atteint le seuil de l'auto-entreprise. Et là, il me dit, bah, Lauriane, on fait quoi? Je sais, ben, on est obligé de créer une boîte, en fait. En fait, on ne va pas arrêter de travailler, ou on ne va pas diminuer nos...
Bon, ben, go,
enfin,
quoi.
Voilà, go. Et du coup, mais en fait, on savait pas du tout, du coup, comment faire. Enfin,
ouais.
Moi, j'avais pas écouté à l'école. Et du coup, on va sur Legal Start ou un truc comme ça pour créer les statuts de notre société. Genre, on n'appelle même pas un avocat, ni rien.
Ouais, ouais,
on fait ça sur Internet, mais on est jeune. Et puis, on se dit, bon, ben, on verra bien. Donc, on crée des statuts, un pacte d'associés, parce qu'on avait vite fait vu sur Internet qu'il fallait faire un pacte d'associés. Ouais. On savait pas trop ce que ça comportait. On était contents, et puis
et voilà.
Et après, on s'est dit, ouais, faut peut-être qu'on prenne des bureaux, qu'on prenne des stagiaires et tout. Et puis,
et on se lance dans l'aventure entrepreneuriale comme ça, quoi.
Exactement. Et puis, ça a super bien marché. Mais on bossait comme des dingues.
Je me souviens d'une époque où il y avait des articles de partout.
Il y avait cinq articles par jour.
L'effervescence, c'était incroyable, quoi.
Et puis, moi, je m'occupais du coup de la... En fait, on avait très bien réparti les tâches. JB, lui, s'occupait du back-office et de l'écriture des articles.
Okay.
Et moi, je m'occupais vraiment de la partie commerciale, vision à long terme de l'entreprise. Comment je remarquais qu'il y avait telle ou telle tendance qui pouvait être intéressante à prendre sur tel ou tel site. On s'en parlait, et puis on avançait ensemble, et ça fonctionnait super, super bien.
Et comment ça se passe, du coup, à partir de là, la transition sur... Le modèle que tu as aujourd'hui, qui est du coup, tu as Louvain Partners, qui est ce que tu appelles ton agence, même si la dernière fois quand on en parlait, ce que tu me disais, c'est la réalité, tu es toute seule en fait.
Ouais, c'est une agence sans salarié. Voilà.
Et du coup, ça m'intéresse aussi de te dire, genre, quand tu fais cette transition-là, pourquoi est-ce que tu choisis de te dire, ok, je fais une agence où je serai peut-être toute seule, mais voilà, on va brander la chose comme ça, plutôt que de te dire, ben voilà, moi je vais me positionner. Sur le métier que tu as aujourd'hui, qui est le métier de relations d'influence.
Oui.
C'est quoi le choix que tu fais à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu choisis ça?
En fait, quand j'annonce sur Facebook que je relaie mon post Facebook sur Twitter, alors encore une fois, Twitter est hyper important, je reçois, mais dans les 30 minutes qui suivent, ou même moins, je reçois une quantité d'appels de gens qui me disent « Tiens, Lauriane, mais vu que tu connais le milieu des influenceurs, parce qu'en fait, nous, on était considérés comme des influenceurs. On était à la fois un média, un blog, on ne savait pas trop. Donc, on était invités partout, par toutes les marques, etc. Parce qu'on parlait de lancement de produits, de nouveaux produits, etc. Et ils me disaient « Bah, Lauriane, toi qui les connais bien, vu que c'est tes potes, etc. Est-ce que tu peux nous aider à mettre en place une stratégie d'influence ?» Donc, j'étais tout de suite approchée par des agences.
Ouais.
Et pas forcément des clients directs, donc vraiment par des agences, parce qu'ils me connaissaient hyper bien, par des patrons d'agences, etc., parce que je les croisais tout le temps.
Ouais.
Et du coup, ils me font « Bah, Lauriane, tu peux nous aider ?» Je dis « Bah oui, pas de souci. » Et ils me font « Bah, Lauriane, en fait, faut que tu nous factures. »
Comment ?
Et j'étais « Ah, j'avais pas pensé à ça. » Et en fait, du coup, vu que j'avais un expert comptable, j'avais au final pris un avocat parce que j'en avais besoin pour la société, etc. Du coup, je contacte mon avocat et il me dit « Non, mais Lauriane, ne fais pas d'auto-entreprise, passe tout de suite en SASU. » Il me fait « Lauriane, ce que tu fais, c'est important. Et si tu trouves que ce que tu fais, c'est important, eh ben, il doit avoir un statut important. Donc, c'est une SASU. Comme une entreprise du CAC 40, etc., tu te crées une SASU.
» Grosse aventure directe.
Et je fais « Mais c'est quoi les avantages et tout ?» Il me fait « Un jour, si tu as des enfants, tu pourras leur filer des parts et tout. » Ou même...
Vision long terme directe.
Voilà, genre vision long terme. Il me fait « Lauriane, ça va marcher. » Il fait « Regarde, tu as des appels au bout de 30 minutes. » Et j'ai eu tout de suite des très beaux clients. C'était Cuisinella, etc. C'était pour les 25 ans de la marque. Tout de suite, il y a eu des très beaux clients.
Okay.
Et il me fait « Lauriane, si tu es une auto-entreprise, tu vas perdre du temps parce qu'il y a des papiers à faire. » Et puis après, tu vas tout de suite devoir refaire des papiers pour faire une SASU. Donc, autant la faire tout de suite. Et j'étais, ok, d'accord.
Du coup, c'est cette réflexion-là de quel statut je prends finalement qui t'a fait dire, ok, si c'est une SASU, il faut un nom, il faut que ce soit une boîte.
C'est ça.
Plutôt que de faire une SASU L'Oréal.
Et puis en plus, je me suis dit, en fait, je déteste me mettre en avant. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que j'étais forcément derrière, il était une pub, etc.
Okay.
Donc, moi, une entreprise qui s'appelait Lauriane Frécy, c'était juste pas possible.
Ok.
parce que pour moi, je me vois pas en, enfin c'est ma vision du management après, mais je me vois pas en despote qui dit toi tu fais ça, toi tu fais ça et on m'écoute. C'était vraiment on travaille ensemble, on avance ensemble.
Est-ce que tu avais directement cette vision là d'avoir des gens avec qui tu travailles en fait?
Parce que départ.
Aujourd'hui, bon, je voulais venir plus tard, mais tant pis. Aujourd'hui, je sais en te suivant sur Twitter, et encore une fois, on reviendra à Twitter après. Mais je sais que du coup, il y a souvent des moments où tu cherches certaines
compétences.
Des community managers, enfin bref, plein de différentes compétences. Aujourd'hui, c'est des freelances avec qui tu travailles principalement, c'est ça? Comment est-ce que tu gères du coup cette relation? Parce que toi, tu as des clients et tu chapotes les freelances pour les clients. Enfin, ça se passe comment? Est-ce que tu peux nous raconter?
En fait, grosso modo, j'ai un client ou une agence qui vient me chercher. Ils ont un besoin, en plus de mon métier principal qui est de faire la stratégie d'influence. Des fois, ils me disent, bah, en plus, j'aimerais un community manager. En plus, j'aimerais quelqu'un qui fait de l'acquisition. En plus, j'aimerais un photographe pour prendre en photo les influenceurs. Et du coup, bah, en fait, j'ai des freelances qui travaillent pour moi, que je sélectionne vraiment en fonction de leur expertise. Je vais avoir quelqu'un qui sait très très bien faire des photos dans l'univers Instagram, qui a l'habitude de prendre en photo des influenceurs, ou une fille qui fait de l'acquisition, une fille qui est CM mais spécialisée déco, ou une fille ou un mec qui est CM spécialisé sport, etc. Et en fait, je me crée mon petit écosystème. En fait, en t'écoutant dans ton podcast, tu parles de collectif et des choses comme ça. Moi, j'avais pas forcément mis un mot là-dessus, et puis je cherche toujours des fois des nouvelles personnes, mais c'est vrai que c'est souvent les mêmes personnes qui travaillent avec moi. Et mais j'aime aussi ce fait d'être en constante recherche de gens qui collent parfaitement à l'ADN de la marque.
Et aux besoins particuliers.
Parce que je le fais déjà pour rechercher des influenceurs. Parce que moi, je passe pas par des plateformes, etc. Je fais vraiment de la recherche à la mano. C'est vraiment de l'influence, mais en dentelle. C'est vraiment comme ça que je le vois. Je trouve vraiment les meilleures personnes à chaque fois.
Et quand tu parles d'influence en dentelle, c'est-à-dire même sur les compétences que tu recherches pour travailler, pour toi, c'est aussi
c'est hyper important en fait. Mais en fait, j'ai envie que tous les gens avec qui on travaille, on a un but commun et on le fait bien. Parce qu'en fait, j'ai pas le temps de prospecter parce que j'ai beaucoup de boulot. Et du coup, en fait, je veux que tout soit parfait. Je suis un peu perfectionniste et je veux toujours que j'ai donné le meilleur de moi-même. Et que les gens qui sont autour de moi ont donné aussi le meilleur d'eux-mêmes. Donc, à la phase de recherche, de trouver la bonne personne, c'est hyper important.
Et du coup, juste pour revenir, parce qu'il y a un autre sujet que j'avais envie de traiter sur cette question de... Aujourd'hui, du coup, tu vends ça sous la forme d'une agence. Et du coup, une fois que tu as cette agence, quand les gens ils ont des besoins en plus, tu vas chercher des bons freelances pour ça.
Après, j'explique tout de suite au client que cette personne est en freelance et que cette personne travaille avec moi et qu'on travaille ensemble. Et même, parfois pour la facturation, c'est moi qui facture tout et après je repaye la fille.
Et tu rachètes. Ou
parfois c'est le freelance qui après va facturer directement. Mais le contrat est toujours 100% transparent.
Comment c'est reçu par les clients du coup ça?
Eh ben, c'est hyper bien reçu. Beaucoup mieux reçu que si je disais on a une entreprise de 20 personnes, etc. En fait, je leur dis dès le départ, moi mon expertise c'est vous trouver la bonne personne. Donc en fait ils me font confiance
parce que moi du coup de mon expérience en agence, effectivement t'as peut-être la même chez Avas, c'est en fait l'agence a une capacité de production et s'il y a des besoins supplémentaires on recrute des freelances, mais c'est la petite recette interne,
Vois.
Et du coup, effectivement, il n'y a pas ce degré de dire, là, c'est un freelance qui va travailler sur du projet, et ainsi de suite. Ce qui est pas bon ou pas bon, on n'est pas là pour juger et dire quelles sont les bonnes pratiques.
Bien sûr, et ça peut fonctionner à des moments. Mais en fait, moi, je n'ai jamais réussi à mentir. Du coup, en fait, c'était super compliqué de dire non, mais cette personne, en fait, elle travaille pour moi, j'ai dû créer une adresse mail, etc. C'était juste pas possible. En fait, du coup, je préfère être honnête et dès le départ, parce que ça va savoir, en fait, si la personne, elle est freelance. Et elle aura peut-être envie de le dire à un moment. Donc moi, j'ai pas envie qu'elle se sente mal ou... Enfin, voilà, je préfère que tout soit transparent. Et même quand je fais une stratégie pour le client, j'utilise pas des mots compliqués, etc. D'être le plus transparente possible, de répondre le plus possible aux questions, parce que avoir l'air incroyable et élitiste avec des mots super compliqués, etc. Il y a pas de relation de confiance qui s'installe.
Pour faire un petit exercice ensemble pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est une question quand même récurrente que les gens peuvent se poser quand ils se lancent, surtout si leur avocat leur dit SASU direct. Ce serait du coup de se dire, ok, je suis indépendant, aujourd'hui t'es indépendante.
Ouais, complètement.
quels sont pour toi les avantages et les inconvénients, et on peut faire le jeu sur les deux côtés, de te dire, je vais créer une agence avec un nom particulier, une marque particulière, plutôt que de faire quelque chose en mon nom. Parce que moi, du coup, j'ai la réflexion inverse, donc ça peut être intéressant de comparer. Ouais. Pour toi, c'est quoi les avantages de créer une forme d'agence, même si tu es indépendante derrière?
Alors moi, dès le départ, ça m'a permis d'être plus crédible.
Ok.
Le fait d'avoir une agence derrière, ça rassure le client. Il a l'impression que t'es pas tout seul, même si en fait il sait que t'es tout seul. Mais ça montre un certain impact. Puis parfois il y a certains clients qui m'ont dit, nous on travaille pas avec des freelances, on travaille avec des agences. Donc moi dès le départ je me suis dit, non, moi je suis une agence, je suis pas freelance.
Je suis freelance, moi j'ai une agence.
J'ai une agence. C'est une SASU, et ça inspire confiance. Et puis, je sais pas, le fait aussi de me considérer comme une entreprise, c'est de prendre tout de suite au sérieux, je vais pas faire de grasse mat, etc. Enfin, j'ai tout de suite me mettre à taffer avec des horaires de boulot.
Ah ouais, donc ça joue même sur toi, sur ton mindset.
Complètement.
Ah, c'est intéressant ça.
C'est vrai qu'au début, je me suis dit, ah, c'est génial, je vais pouvoir aller au musée en plein milieu de l'après-midi. Ouais. En fait, je le fais jamais. Sauf si, exceptionnellement, il y a une super expo et je veux absolument y aller. Mais non, en fait, ça me permet de me cadrer. Et puis aussi de rassurer mes parents.
Okay.
Leur dire, j'ai une vraie vision à long terme de ma boîte. Je sais où je veux aller. Je sais pourquoi je l'ai créée. Et en fait, c'est pas, et puis aussi, ça permet de déculpabiliser. C'est pas juste moi. C'est la Louvain Partners. Et d'ailleurs, il y a des comptes différents. Enfin, il y a le compte de l'entreprise, il y a mon compte perso.
Donc, t'as séparé un peu les deux entités.
Complètement.
En plus, quoi.
Complètement. Parce que j'avais ce besoin de montrer que ça pouvait fonctionner, que ça pouvait aussi exister, même peut-être sans moi. En fait, un jour, peut-être que ça pourrait exister sans moi.
C'est vraiment une réflexion à encore plus long terme, de te dire, peut-être qu'un jour, si j'ai envie de changer de projet, ça peut continuer d'exister.
Exactement.
Et c'est, moi, la question que je me pose par rapport à ça, notamment, c'est, en fait, c'est une création de valeur d'avoir ça. C'est-à-dire que si t'as une entité, qui est donc cette agence, et que tu crées une structure, des process, des choses comme ça, et que toi, tu peux te retirer un jour, ça, c'est une valeur marchande aussi, parce que y a une clientèle, c'est identifié sur le marché.
Moi, j'ai une méthodologie de travail. Je pense que un jour, si je l'explique à quelqu'un, cette personne pourra l'appliquer aussi. Moi, je me suis dit, peut-être qu'un jour, je veux pas forcément rester toute seule. Je veux avoir des employés. Aujourd'hui, c'est des freelances parce que j'ai des missions moyen, court terme, etc. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai une mission long terme et je voudrais embaucher quelqu'un. Et en fait, ça me paraissait beaucoup plus cohérent, en fait, dans l'histoire que j'avais envie de raconter.
Ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est comment t'y réfléchir en te disant, les clients ou les prospects que j'ai rencontrés, ils disaient, on travaille pas avec des freelances, on travaille avec des agences. Et que du coup, tu te dises, moi, pour travailler avec eux, faut que je puisse répondre à ce qui leur parle. Tu vois, moi, j'ai le contre-exemple parfait, qui est qu'aujourd'hui, moi, je me brande sous mon nom. Après, avec le collectif et l'écosystème avec lequel on travaille, on a ce nom-là, mais on se brande tous plus ou moins par notre propre nom. Et nous, notre discours, c'est de dire, aujourd'hui, il y a une certaine forme de distance qui se crée entre les agences et les clients, les annonceurs, ce qui fait que manque de confiance, enfin bref, tout ce qui vient derrière. Et nous, notre message, c'est de dire, nous, on est des indépendants, on a envie d'être comme votre équipe, on n'a pas envie d'être, on veut surtout pas être votre agence. On veut être comme votre équipe et vos collègues et travailler avec vous et recréer ce lien de proximité. Et ça, du coup, nos clients, ils sont ultra réceptifs à ça. Et quand on leur dit ça, ils sont là, oh génial, parce que les agences, il y en a un peu
moins. Moi, du coup, ça s'appelle la Louvain Partners. Et du coup, j'ai ce lien qui se crée où j'avais absolument besoin de le mettre dans le nom de mon agence. Parce que je suis partie du principe que je ne sais pas tout et que je ne saurais jamais tout. Et donc, que forcément, il me faudra des partenaires pour ça. Et que mon client est un partenaire, mes influenceurs sont des partenaires, les talents des cuisiniers sont des partenaires, ou encore les freelances sont des partenaires, et on avance ensemble.
Ouais, c'est intéressant, parce qu'au final, dans ton approche ou l'autre, peu importe l'approche, parce que au final, j'aime bien dire que, et il y a beaucoup d'autres personnes qui disent ça, et à chaque fois ça me parle et je me dis putain, c'est vraiment ça. C'est que le marketing, et au final tout ça c'est du marketing, quel positionnement je prends, est-ce que je suis une agence, quoi que ce soit, c'est du marketing, et que ça c'est seulement un jeu de perception. C'est-à-dire que si dans les yeux du client ou du prospect en face de toi il se dit ok, ça c'est vraiment génial, parce que t'as dit que c'était une agence plutôt que de dire que t'étais indépendante, ce qui au final, on s'en fout de ce qu'il y a derrière, c'est eux ils voient juste le nom et c'est comment ils perçoivent ça. Mais c'est ça qui crée la relation et qui crée la valeur là-dedans. Et du coup, c'est juste jouer sur ces perceptions. Une fois que t'en as connaissance, c'est que tu sais que les gens en face, ils veulent une agence, mais ils veulent la proximité des partenaires, ils veulent un groupe qui avance dans le même sens, etc. Et que tu trouves les bonnes phrases qui fonctionnent. C'est là que ça fait toute la différence, en fait. Ouais.
Et ce qui est assez drôle, c'est que vu que bah, je suis présidente de MassAsu, il y a des clients qui font « c'est incroyable, la présidente, elle prend soin de moi, s'occupe de moi ». Mais en fait, je suis un peu toute seule.
Je suis toute seule, hein. Je suis présidente, vice-présidente, je suis tout, quoi. Intéressant.
Mais
ok, cool. Parce que je pense que c'est une vraie question. Pour donner un peu de visibilité sur moi, comment j'organise les choses, j'ai plein de différents sous-projets. J'ai moi, en tant qu'indépendant et freelance, j'ai le collectif et l'écosystème, j'ai mon programme d'accompagnement qui s'appelle Surf en Freelance, et j'ai ce podcast qui a un nom, qui n'est pas genre le podcast de Thomas Burbidge, c'est Young, Wild and Freelance. Mais en gros, moi, j'inverse le truc. C'est-à-dire que ma priorité, c'est de travailler sur ma marque personnelle, Thomas Burbidge, et ensuite que tous les projets qui soient associés à moi, que je crée, ils soient infusés par ma marque personnelle dans le sens où c'est un projet par moi, ce qui lui donne du coup une certaine forme de crédibilité ou de cohérence par rapport à moi, ce que je suis et mes engagements. Et du coup, c'est la forme de travail inverse, en fait. C'est de dire, moi, je m'appelle Thomas Burbidge, voilà mes convictions, voilà ce sur quoi j'ai envie de travailler, voilà où j'ai envie d'aller et où j'ai envie de vous emporter. Et c'est pour ça que je crée du contenu pour une audience, parce que j'ai envie d'emporter cette audience avec moi dans une direction donnée. Et du coup, tous mes projets sont en lien avec ça.
Moi, j'étais un peu timide, je pense, de pas
oser... C'est intéressant, dans un sens ou dans l'autre, au final. Mais effectivement, il y a ces questionnements qui viennent derrière, de se dire, il y aura forcément une limite à mon individualité. Et si j'ai envie que ça continue pour plus longtemps derrière, comment est-ce que je structure ça? Et je regarde beaucoup vers les États-Unis, notamment sur cette question. Par exemple, Gary Vaynerchuk. Moi aussi, je suis hyper fan. et lui, du coup, il arrive à se distancer et avoir des entreprises vraiment qui tournent, même si c'est son nom. Mais son nom est tellement fort aujourd'hui que c'est ça qui crée l'attraction pour les boîtes qu'il crée aussi.
Totalement.
Aujourd'hui, Gary Vee, il crée une boîte, tout le monde se dit « Ok, trop bien, c'est une boîte de Gary Vee, c'est excellent, il faut que j'y aille. »
C'est vrai.
Et ça, c'est aussi hyper puissant. Donc, c'est intéressant, je trouve, au final, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode de se dire « Je fais une agence, je suis indépendant. » Mais c'est juste qu'est-ce qui te parle le plus et quelle est la vision qui te parle le plus, quoi. Et t'en parlais aussi au début en disant « Voilà ma réflexion, c'est ça la direction que moi, je veux prendre. »
En plus, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, quand j'ai créé mes réseaux sociaux, j'ai dû m'appeler Lauriane Rennes.
Oui.
Parce qu'à l'école, on m'avait dit, il faut pas mettre ton nom de famille, parce que sinon, les employeurs vont te retrouver sur les réseaux sociaux.
J'avais demandé jusqu'au devant, ça vient d'où, Lauriane Rennes?
Rennes, c'est mon deuxième prénom. C'est le prénom de ma grand-mère. Et du coup, pareil, là aussi, j'étais pas forcément à l'aise. Du coup, je dis, mais si je mets mon nom, mais je mets quoi? Je mets Lauriane Rennes, le nom sur lequel je suis connue sur les réseaux sociaux et de manière professionnelle, ou est-ce que je mets mon vrai nom de famille qui est Lauriane Frécy?
C'est intéressant, c'est des questionnements où,
du coup, c'est trop compliqué.
J'imagine que tu dois bien connaître ça pour travailler avec des influenceurs et tout ça, mais comment tu crées une cohérence sur l'ensemble de tes points de présence sur les réseaux sociaux? Parce que, effectivement, sur Twitter, t'es Lauriane Rennes, sur LinkedIn, t'es Lauriane Frécy, et d'ailleurs, pour l'anecdote, moi je pensais que tu t'appelais vraiment Lauriane Rennes et du coup j'ai tapé ça sur LinkedIn pour chercher et je te disais mais attends, mais je la trouve pas. Du coup je suis retombé sur Lauriane Frécy derrière. Mais effectivement, du coup ça crée. Comment créer de la cohérence là-dedans, c'est intéressant quoi.
C'est clair, mais je me dis qu'aujourd'hui si je remettais Lauriane Frécy parce que j'aimerais bien, mais je me dis mais en fait plus personne me trouverait, même mes potes ne me retrouveraient.
Parce qu'ils ont créé ce réflexe de chercher ça quoi.
C'est ça.
Pour revenir du coup à Twitter, parce que on en parle depuis le début et tu dis que t'es très présente là-dessus. Qu'est-ce que aujourd'hui, tu m'as dit juste avant qu'on commence à enregistrer, je dois tout à Twitter.
Ouais, je dois tout à Twitter.
Est-ce que tu peux nous expliquer?
Quand je suis en école de commerce, il y a un intervenant un jour qui utilise les réseaux sociaux, etc. Qui utilise Facebook pour tout le monde lever la main. Qui utilise Twitter? On était trois technos à lever la main. Dans les trois technos qui ont levé la main, il y avait Anthony Payet qui t'a interviewé.
Tout à fait, épisode 4.
Ouais. Et il y avait Jérôme Jarre. Donc je pense que maintenant il est suffisamment connu pour que je n'ai même pas raconté qui
il est. On n'a pas besoin de dire qui il est. En tout cas, je mettrai un lien pour ceux qui ne connaissent pas dans la description.
Mais en fait, on ne s'en rendait pas rendu compte à ce moment-là. Mais en fait, on avait cet attrait en fait d'avoir envie de parler de nos passions, de raconter, de communiquer en fait aux autres les choses qu'on aimait ou les choses qu'on lisait, enfin tout ce qui pouvait nous arriver. Moi, j'avais quand j'étais plus jeune, j'avais un blog, mais c'était pas un Skyblog, hein. J'avais même codé mon blog en regardant des articles qui expliquaient comment faire pour coder en CSS, etc. Et j'avais du coup ce côté-là qui m'intéressait vraiment de partager. Et du coup, quand le prof il a dit oui, allez sur Twitter. Poster au moins tous les jours. Bon, je dis qu'est-ce que je racontais tous les jours, mais bon, je me suis pris au jeu. Et puis au moment où je cherchais un stage, c'est grâce à Twitter que j'ai trouvé un stage. Quand mon ancien associé Jean-Baptiste Delame cherchait quelqu'un pour l'accompagner, en fait c'est grâce à Twitter. Il avait entendu parler de moi via ce média. Aujourd'hui encore, des fois, j'ai des agences qui me disent ah bah tiens Lauriane, je viens de voir ton tweet. En fait, je t'envoie un petit message. On aurait besoin de toi pour telle ou telle chose, etc. Ah bah je rebondis sur une des choses que tu m'as racontées. Enfin, et au final, il y a ce côté aussi voilà hyper proche qui fait que j'ai pu échanger avec des gens. Où je me disais au début, j'aurais pas forcément la légitimité de leur parler, mais en fait via Twitter, c'était beaucoup plus simple. Ce qui fait que j'ai pu échanger avec des directeurs d'agence, etc. Et ce qui a fait que quand je me suis dit tiens, il y a les Cannes Lions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je me suis dit j'y vais. En fait, pourquoi pas. En fait.
On va
Et en fait, parce que je me sentais proche, en fait, de ces gens-là qui allaient au Cannes Lions et qui tweetaient et tout. Du coup, je me sentais pas seule. Et puis, en plus, j'avais une amie qui est Astrid Garando, qui a une boîte de RP qui s'appelle Hashtag LabKit, qui est l'ancienne assistante personnelle de Jacques Seguela, qui, elle, descendait au Cannes Lions, qui, elle aussi, avait monté sa boîte. On s'est dit, on y va. Et en fait, on a notre place. Et en fait, c'est pense que ce sentiment d'avoir sa place, c'est grâce à Twitter. Du coup, pour moi, le Twitter, c'est hyper important parce que c'est là où, des fois, je déverse ma rage quand je suis pas contente ou j'ai envie de faire passer un message. Mais c'est aussi là où je raconte, mes petits bonheurs, mes petits trucs en 140 caractères où je suis, voilà.
Je trouve ça super intéressant ce que tu dis où ça crée de la relation et de la proximité parce que, effectivement, moi, je te connais de Twitter. Et en suivant tes petites aventures de « Ah, tel client qui me paye pas » ou « Je cherche tel type de truc » ou tes petites célébrations en gif, ça crée de la relation. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit « Tiens, je suis sûr que Lauriane, elle aurait des trucs super intéressants à raconter sur le podcast. »
C'est clair.
Et ce que je retiens de ça... Enfin, je vais raconter... J'ai une petite histoire avec Twitter aussi. Quand j'étais en licence chez Capgemini Consulting, j'étais au service com et en gros... un des gros projets, c'était comment est-ce qu'on a plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Et moi, je chapeautais un peu cette partie-là. Et on a mis en place tout un programme pour aider tous les consultants de la boîte, parce que c'est une grosse boîte quand même, et beaucoup de consultants avec beaucoup de compétences et de secteurs d'expertise différents. Comment est-ce qu'ils pouvaient prendre ça en main pour inonder un peu les réseaux avec des consultants dans tous les sens qui parlent de ce qu'on fait. Et au final, je suis devenu vraiment passionné par Twitter. Et j'allais... plein d'événements, plein de conférences tout le temps, et je faisais plein de live tweets, et pour la boîte, et pour moi. Et au final, je suis rentré dans des secteurs et des univers, et je suis rencontré des gens, et je me fais la même réflexion que toi, c'est, je suis un petit étudiant en licence, je suis à des conférences trop citées via mon alternance, mais j'interagis avec des personnes, et je me disais, mais jamais de la vie, j'aurais pu interagir avec eux, je suis un petit étudiant en L3, inconnu du monde, d'autant plus que je venais de Dordogne, j'arrivais à Paris, c'était ma première année à Paris, j'avais l'impression d'être un petit bébé au milieu de ce grand monde énorme. Et du coup, ça a créé une relation de proximité avec des gens où je me dis, putain, c'est assez dingue de pouvoir rencontrer ces gens-là. Ce qui fait qu'au final, après, j'ai lâché après, je me suis passionné un peu pour chaque réseau social, l'un après l'autre, finalement, dans tout ça. Mais ce que je trouve dingue, c'est en fait, tu deviens, et on revient un peu sur ce sujet de marque personnelle, parce que je pense, comme tu dis, si les gens ont le réflexe d'aller chercher Lauriane Rennes, c'est que tu as créé un peu une marque personnelle autour de ça. Et tu deviens un peu un média à part entière, parce que c'est ton histoire, les gens interagissent avec, comme tu dis très bien, des fois tu vas partager un truc, ils vont dire « Ah mais putain, c'est vrai, j'avais pas pensé à Lauriane pour ça », mais hop, tu reviens dans la tête des gens et tu recrées de la relation.
Des gens qui me demandent des conseils, des choses comme ça, ça arrive très très souvent que j'en reçois des messages, que ce soit pour trouver un restaurant ou pour avoir des conseils dans le boulot, pour avoir des conseils sur l'influence, pour trouver quelqu'un.
Ou même pour juste échanger et avoir des nouveaux clients. Et ouais. Je pense que ce que je retiens de ça et ce qui est important pour les gens qui nous écoutent de retenir de ça, c'est juste partage ce que tu fais, quoi.
Complètement.
Parle de ce que tu fais, parle de tes projets. Ouais. Et ce que tu nous racontes là, c'est la preuve que avec le temps,
complètement.
Et même dès aujourd'hui au final, mais avec le temps, ça fait une énorme différence. Ouais. Quoi.
Puis partager aussi sa veille, parce que Twitter, c'est un outil de veille qui est incroyable. Enfin, moi, tous les matins, c'est la première chose que je regarde. Après, je vais suivre aussi effectivement des médias type l'ADN, stratégie, etc. Et en fait, ça va me donner « Ah tiens, cet article-là, je l'avais pas vu. » En fait, moi, c'est vraiment comme un flux où je reçois du contenu, que je vais consommer du contenu. Je vais repartager ce que j'ai trouvé intéressant, ce qui m'a fait rire. Et en fait, il y en a qui ont des Twitter thématiques. Ouais. Moi, c'est un peu tout ce qui m'intéresse. Ouais. J'étais incapable de devoir segmenter sur ce média.
Ouais, c'est plus autour de toi en tant que personne que autour d'une thématique.
Mais c'est vrai que j'ai partagé beaucoup de choses sur l'influence parce que c'est des sujets qui m'intéressent et que j'ai besoin d'être
updated. C'est ton métier, quoi.
C'est mon métier. Mais c'est intéressant d'utiliser Twitter.
Ouais. Après, le biais que j'ai pas envie que les gens fassent, et du coup, c'est pour ça que j'apporte ça aussi, c'est de se dire « il faut absolument que j'aille sur Twitter ». Je pense que c'est pas ça le sujet, c'est de se dire trouve un lieu, un endroit
où on sent bien,
où tu te sens bien, où t'aimes bien les fonctionnalités, l'outil, etc. Où tu trouves que c'est là ton endroit d'expression.
Il y en a, ça va être LinkedIn. Moi, c'est LinkedIn, j'ai trop du mal. J'ai l'impression que c'est fouillis, que c'est compliqué, etc.
Il y en a, c'est Behance.
Exactement.
Peu importe.
Il y en a, ça va être même Medium avec des articles. Carrément. Très passionnant, ultra fourni, etc. Ouais. Ou des fois juste même une note d'intention d'humeur. Et non, c'est vraiment... Faut partager. Quand on a une conviction, une passion, faut pas hésiter.
Ouais, et juste parler de ce qu'on fait. Et pas avoir peur aussi de se dire ça intéresse personne.
C'est ça.
Les gens... c'est un sujet dont on parlait un peu aussi avec Alexis dans l'épisode 9, c'est de se dire les gens... T'as toujours un truc de... Une petite peur où tu te dis est-ce que ce que je vais poster là... Les gens, ils ont vraiment envie de lire ça ou pas? Est-ce qu'on va me jeter des tomates? C'est quoi, toi, avec, du coup, toutes ces années de tweetos, et maintenant, je crois que t'as plus de 4500 followers, un truc comme ça, est-ce que t'as encore ce truc-là de te dire est-ce que je poste ça, oui ou non, ou t'as réussi à dépasser?
Franchement, je réfléchis plus à ça. Il y a des moments où, des fois, j'ai un client... qui a cru que le tweet était pour lui, enfin où je disais non mais faites attention, moi si je dis que je me facture que je coûte je sais pas 3 000 euros pour cette prestation, c'est 3 000 euros, c'est en fait c'est pas que dans ma tête je pense que je suis à 2 000, donc en fait je te dis 3 000 le client il a pris ça pour lui et en fait je lui dis ah mais non avec toi ça se passe hyper bien, la relation est hyper bien, c'est juste que j'ai reçu un appel cet après-midi, mais t'inquiète pas, enfin. Et d'ailleurs, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler.
D'ailleurs, du coup, c'est intéressant. Il y a peut-être ce petit facteur risque que ce que tu dis, ça soit mal interprété.
Oui,
toujours un risque.
Bien sûr, mais après, je pars du principe qu'en fait, en plus, un tweet, ça a une durée de vie de 2 heures.
Ouais.
Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens forcément qui vont redescendre. Et tout voir. Et c'est vraiment quelque chose sur l'instantané. Je suis plutôt... protégé d'un certain sens par ça, et puis je vais jamais insulter quelqu'un en direct, enfin je sais pas du tout mon mode d'expression, puis, d'être
ce qui est cool aussi, c'est que vu la proximité que t'as avec tes clients dont tu nous parlais, et que cette personne là te dise ah tiens je l'ai pris pour moi, ça c'est cool parce que du coup il a osé te dire
il a pas hésité à appeler,
rester dans son coin, quoi.
Ouais bien sûr, enfin on a vraiment cette relation avec mes clients, avec les agences ou avec des clients en direct, j'essaie d'être le plus disponible possible, d'échanger à la fois par mail mais aussi par téléphone, prendre le temps de se rencontrer, de se voir. Des fois ils sont assez impressionnés par le fait que je suis jeune. Un jour il y a quelqu'un qui fait ah, Lauriane m'a envoyé la stagiaire. J'étais en fait c'est moi. Mais bon, plus le temps passe, plus en fait j'essaie d'avoir l'air quand même enfin un peu plus âgés, enfin d'essayer d'être moins en basket, etc. Parce que en fait la vie c'est un peu le moine.
Du coup c'est aussi une question de perception. Quoi.
Ouais, encore une fois.
Et du coup tu te positionnes comment sur ça aujourd'hui?
Aujourd'hui aussi, maintenant je suis aussi prof en MBA. Et ça me permet aussi de gagner en crédibilité et aussi à travailler ma manière de parler, d'être plus, je sais pas, plus cohérente, etc. Et aussi d'avoir l'air aussi un peu plus adulte, parce que c'est des fois en salle des profs, on me fait « Mademoiselle, vous n'avez pas le droit d'être en salle des profs. »
Ah ouais.
Je suis prof ici, hein, je donne deux cours.
Ah, c'est drôle.
Mais oui, donc voilà, c'est quand même pas mal de choses qu'il faut que je travaille.
Encore une fois, moi, dans la manière dont je construis ma marque personnelle, le fait que je sois jeune, ça fait partie de mon identité, ouais. En fait. Là, c'est pas le cas, mais il y a des fois, je suis en rendez-vous, je porte mon bonnet. Ouais. Voilà, moi, je me bats justement pour dire, c'est pas parce qu'on est jeune que ce qu'on fait, c'est pas
clair.
Du bon taf et qu'on n'est pas compétent. Et ça fait partie de mon identité. Donc forcément, il y a des gens que je rejette. Mais tant mieux, parce que je me dis, bah, ces gens-là qui vont me vouvoyer pendant les 6 mois de notre travail ensemble et qui vont me juger à chaque fois que je rentre dans la pièce, ils sont pas faits pour moi.
Non, c'est clair.
Même si j'aimerais beaucoup me battre pour leur changer leur avis, et c'est ce que j'essaie de faire des fois dans mes prises de parole ou mes confs, de jouer sur ça. Mais ça fait partie de comment j'ai envie de construire ma marque personnelle, de me dire, je suis jeune, ouais, c'est une putain de force, voilà pourquoi c'est une force.
Clair.
Et si tu me juges sur mon âge, suis-moi un peu et je vais te montrer que en fait c'est pas du tout un facteur.
Et d'ailleurs, autant monter sa boîte quand on est jeune, on n'est pas marié, on n'a pas d'enfant, on a eu l'habitude de vivre comme un étudiant, de pas avoir beaucoup de thunes en mangeant des pâtes. Donc, mais lancez-vous, c'est le meilleur moment en fait de se lancer, de faire des erreurs, d'apprendre, etc. Moi, ça me terrifierait de monter une boîte à 40 ans avec déjà je sais pas 2 enfants et en fait de devoir assumer le poids de cette responsabilité là, dire bah merde, mais en fait si ça marche pas, qu'est-ce que je fais, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on mange,
est-ce que je le fais dans le garage de mes parents.
c'est ça après voilà, ça peut faire aussi peur de se lancer parce qu'on dit on n'a pas assez d'expertise, mais l'expertise on l'a en faisant en fait et en s'informant, en lisant, en travaillant, l'expertise on l'a forcément.
Cette fameuse phrase qu'on a je pense tous entendue un jour mais on n'a jamais vraiment vu la valeur dedans, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
complètement c'est franchement c'est en étant chef d'entreprise qu'on devient chef d'entreprise.
Moi j'aime bien aussi
les jours on apprend un petit peu,
dire aux indépendants que j'accompagne ou aux gens avec qui je parle de ça, de dire là tu te racontes des histoires en te disant que t'es pas prêt, parce que tu seras jamais à 100% prêt, ça n'existe pas, parce qu'à chaque fois que t'avances dans un sujet tu vas aller voir, c'est un peu comme un iceberg, tu vois le début puis ensuite tu vois qu'il y en a encore, puis il y en a encore, puis il y en a encore, donc tu seras jamais à 100% prêt.
C'est sûr.
Et du coup, ça sert à rien d'attendre d'être 100% prêt, parce que sinon tu te lanceras jamais. Donc go.
Ouais.
Tu te casseras la gueule, mais tant mieux en fait. Tu vas apprendre
davantage. Opportunités.
Exactement.
Et des fois tu te casses la gueule, mais en fait pour quelque chose de mieux.
Ouais.
Donc t'apprends. Moi, avec ma première boîte, il était une pub, j'ai énormément appris. Et le fait qu'on ait revendu la boîte fait que ça m'a appris à peut-être encore faire des choses peut-être mieux ou de manière différente sur ma nouvelle boîte. Par exemple, sur l'été d'une pub, j'avais un associé.
Ouais.
Et là, sur la nouvelle boîte, sur la Love & Partners, j'ai pas pris d'associé parce que j'avais pas peur d'y aller toute seule. Enfin, j'apprends, c'est chaque jour est différent.
Et du coup, si, juste pour revenir sur un peu une thématique qu'on a bien traitée là, c'est plutôt, si je me lance, imaginons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute là, et qui est dans la phase de se lancer et qui hésite entre est-ce que je fais un truc à mon nom et j'ai envie de construire une marque personnelle et je prends cette piste-là, ou est-ce que je crée une agence avec un autre nom et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Quelles questions tu voudrais qu'il se pose? Enfin bref, c'est quoi la démarche pour toi pour que cette personne trouve sa voie aussi? Parce que j'imagine que la voie de créer une agence, c'est pas pour tout le monde.
Bien sûr,
d'avoir de la personal brand comme moi, c'est pas pour tout le monde. Comment tu l'aiderais à
savoir ce qu'on a envie, enfin aussi sa personnalité. Voilà, par exemple, moi, j'avais toujours du mal de me mettre en avant, donc pour moi, c'était pas possible, même si j'avais quand même un personal branding qui était quand même existant, hein, avec Lauriane Rennes, etc. Je me sentais pas forcément capable. Donc si tu te sens pas capable, tu ne crées pas quelque chose sous ton nom, et puis au pire tu le mets sous ton nom et après quand tu te sens prêt tu le changes. Tu peux totalement le faire.
Je vois beaucoup d'indépendants qui commencent tout seul
la tête.
Et qui ensuite se disent à un moment donné, ok, j'ai atteint la limite de ce que je peux faire en 24 heures, prochaine étape, agence.
Bien sûr.
Danilo Duchesne, c'est un bon exemple. J'ai parlé de lui sur un des derniers podcasts que j'ai fait. Je vais arrêter de parler de toi, Danilo, parce que je sais que tu l'écoutes aussi de temps en temps, et j'en parle peut-être un peu trop souvent. Je vais prendre d'autres exemples dans le futur. Mais lui, sa réflexion, c'était, bah, OK, là, j'ai atteint la limite de mon temps. La prochaine étape pour moi, c'est une agence. Recruter des gens. Faire en sorte qu'on bosse sur davantage de projets. Et du coup, c'est effectivement une transition pour certaines personnes.
C'est vrai qu'une journée, ça dure que 24 heures, malheureusement.
Et on a malheureusement que 7 jours dans la semaine.
Exactement.
Ou 5 si on veut pas bosser le week-end.
Ouais. Mais qu'à un moment, il faut se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quel est mon emploi du temps idéal? Comment j'ai envie d'organiser mon travail? Et si tu penses que t'as envie de travailler sur plein de sujets en même temps, bah, dans ce cas-là, peut-être que le format agence va te permettre peut-être du coup de travailler après moi, comme je le fais avec des free, etc.
Et d'avoir cette perception globale aussi dont on parlait depuis.
Exactement. Ou bah, sinon, se dire, bah, moi, je préfère y aller, je prends mon temps, d'y aller à mon rythme. Et peut-être dans ce cas-là, la forme personnel fonctionne beaucoup mieux.
Cool. On va rentrer du coup dans les questions rituelles un peu de fin de podcast. Et on reviendra, enfin, ce que tu vas nous dire va sûrement revenir sur ce sujet, mais j'aimerais que tu nous partages, c'est quoi, depuis que tu es indépendante, donc depuis que tu as créé Louvre & Partners et que tu es plutôt seule, entre guillemets, en tout cas indépendante dans ta manière de gérer ce projet-là, c'est quoi ta plus grosse galère que tu as rencontrée? J'imagine que tu l'as partagé sur Twitter. Mais c'est quoi la plus grosse galère?
En fait, la plus grosse galère, c'est d'avoir fait confiance à certaines personnes et ne pas avoir fait de contrat avec cette personne. Et m'être fait avoir. En fait, il faut toujours préparer la guerre tant qu'il y a de l'amour. C'est une phrase que je me répète en fait tous les jours, et je me suis fait avoir une fois, je me suis fait avoir deux fois, mais là je me ferai pas avoir trois fois. Enfin, c'est tellement douloureux, parce qu'en fait moi j'y mets tellement toute ma personne, qu'en fait le fait d'avoir fait confiance en fait un peu de manière, en fermant un peu les yeux, et ben je suis déçue, et du coup voilà, c'est des déceptions qui vont au-delà de l'entreprise, mais après du côté humain, et forcément ben ça affecte, c'est pas très agréable.
Et puis effectivement, c'est beaucoup plus simple de créer un bon cadre pour que tout le monde soit OK.
Et même quand c'est une personne que t'adores, même si ça peut être ta meilleure amie, bon moi c'était clairement pas avec ma meilleure amie, mais ça peut être quelqu'un, que ça peut être ton frère, que il faut dès le départ cadrer les choses, que ça soit dans un pacte d'associé bien complet avec l'aide d'un avocat, que ça soit un contrat de travail, un pacte d'agrément, ou quel que soit, mais cadrer les choses pour qu'en fait on se dise, ben en fait, que la personne aussi sache exactement ce qu'elle doit faire et ce que toi tu dois faire aussi.
Je pense
et
quels
sont les rendus, fluidifier beaucoup,
ça fluidifie les relations et ça simplifie clairement le fait de mieux travailler ensemble.
Totalement. Parce que... Et il y a beaucoup plus de confiance, en fait.
Trop bien. J'aime beaucoup la phrase que tu as dit, préparer la guerre tant qu'elle est là. Très cool. Je retiens et je me permettrai sûrement de la ressortir à un autre moment.
Ça marche.
La deuxième question, c'est, si tu avais face à toi Lauriane plus jeune, c'est son premier jour d'indépendante dans ce nouveau projet-là, c'est quoi le gros conseil que tu lui donnerais, si tu pouvais lui donner un seul conseil pour qu'elle puisse avancer dans le projet?
En fait, peut-être hésiter encore moins, parce que à chaque fois je disais, non mais je suis jeune, oh non mais ça j'ose pas lui parler, etc. Quelle est ma légitimité, quelle est ma place? Et en fait, à partir du moment où en fait t'as un projet, ce projet il doit vivre en toi. Donc en fait, faut pas hésiter à aller poser des questions, faut pas hésiter à se casser la gueule, enfin voilà, faut pas hésiter. Et moi j'ai hésité peut-être à des moments peut-être un peu trop, ce qui a fait que j'ai ralenti les choses, ou j'ai
donc fonce quoi.
Foncez.
Si t'as un doute, go quand même.
C'est ça. Et surtout, enfin moi je passe toujours du temps à me dire quelle est la meilleure solution, etc. Et en fait des fois je perds du temps. Et surtout au début.
Je sais pas si t'as des méthodologies ou des choses à nous partager, mais si jamais il y a des gens là qui se retrouvent dans cette phase d'hésitation où ils se disent je sais pas trop, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils arrêtent de se poser toutes ces questions et qu'ils passent le cap, quoi?
Ben moi je me dirais, dans l'idéal, qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir, vers quoi je veux tendre? Et souvent, en fait, la réponse, elle est là-dedans. Et par exemple, je sais pas, t'hésites entre être salarié ou être freelance. Ben en fait, si t'as envie de, je sais pas, passer plus de temps avec ta famille, et ben au final, la réponse, elle est peut-être déjà là, quoi.
Et l'hésitation, elle a plus de sens.
Exactement. En fait, l'hésitation, c'est juste qu'on n'ose pas. On n'hésite pas vraiment, c'est on n'ose pas.
Donc te reconnecter à si je me pose la question de ce qui est vraiment important pour moi, est-ce que ça vaut le coup de dépasser cette petite hésitation pour avoir accès à ça?
Et puis, de toute façon, c'est quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. On apprend de ces échecs. Ça devient une opportunité. C'est jamais, jamais un échec. Et puis, au final, si mes petites tambouilles de freelance ne fonctionnent pas, eh ben, au pire, je retourne salarié. Et au pire, après, je redeviendrai freelance. Ou au pire, après, je m'associerai avec quelqu'un.
Ouais, c'est clair.
En fait, c'est pas grave.
Ouais, c'est clair. Moi, ce que je me dis un peu, c'est, même si aujourd'hui, c'est inconcevable pour moi de même réfléchir à potentiellement un jour revenir dans
salarié,
hors de question. Mais c'est effectivement la réflexion que j'ai eue. Je me suis dit, même si ça foire, le jour où je me représente en entretien et je dis, voilà, j'ai fait ça pendant tant d'années, j'ai gagné tant d'argent tout seul, j'ai eu tant de clients, tant de projets, j'ai travaillé avec tant de personnes.
Mais en fait,
les gens en entretien, ils disent, ok, mais top, putain, il en veut le mec, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est un énorme facteur de différenciation en entretien, je pense. Donc, je me dis, ben, que je fasse du freelancing et que je me casse la gueule, c'est presque une force pour retrouver un emploi si jamais je dois faire ça.
Mais c'est sûr et certain.
Et ça, je pense que c'est un autre truc qui peut permettre à certaines personnes qui disent,
des fois, on se rend pas compte de tout ce qu'on a fait. Ouais. Et juste le fait d'en parler à quelqu'un qui s'y connaît pas forcément, ils font mais ah bon, des fois il y a des gens qui font mais t'as quel âge, t'as fait quoi, mais comment t'as fait, je sais pas, j'ai avancé, j'ai travaillé, j'y ai cru et voilà quoi.
Très bien. Et du coup la dernière question de ces petites questions rituelles, c'est pour tous les gens qui nous écoutent, quelle est la question que t'as envie de leur poser pour que pendant la prochaine semaine ils réfléchissent à leur activité d'indépendant?
Non, c'est vraiment pas facile comme question.
C'est pensé pour être une question complexe, mais c'est avec des bonnes questions qu'on trouve des très bonnes réponses. Donc c'est important de se poser des très bonnes questions, même si elles sont parfois complexes.
Mais oui, peut-être au fond de soi, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire et comment, est-ce qu'on a envie d'être soi-même ou pas, comment on se perçoit aujourd'hui et comment on veut se percevoir demain et comment on peut, quel est le chemin à faire pour arriver jusqu'à ce point qui nous ferait rêver, je sais pas, tu veux être qui demain, hein, c'est peut-être une question qui est très ouverte, mais en tout cas moi ça m'aide un peu au quotidien pour me recentrer un petit peu tous les jours en me disant ben faut pas que je me repose sur mes lauriers parce que j'aimerais être ça demain, j'ai envie de faire ça, donc je suis obligée d'être en mouvement. Donc
du coup, je me permets d'essayer de la
vas-y,
rephraser,
oui,
tu
oui,
me
oui,
diras
oui.
si c'est bon. C'est de se demander qui j'ai envie de devenir dans un an, deux ans, cinq ans, peu importe la durée de temps, mais qui j'ai envie de devenir dans le futur et qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour aller vers ça. C'est ça.
Et de pas avoir peur d'y aller.
Et du coup, effectivement, le conseil qui vient derrière, c'est si t'hésites. Et si tu veux vraiment aller vers là, ben, hésite plus, mais fonce, quoi.
Mais protège-toi quand même. Parce que
contractualise bien.
Fais
en sorte de préparer la guerre tant qu'il y a de l'amour.
Exactement. Avoir un bon avocat, avoir un bon expert comptable. En fait, être bien entouré, c'est hyper important.
J'ai calé ta phrase, tu remarqueras. C'est top. Merci beaucoup, Lauriane. J'allais te demander où est-ce qu'on peut te suivre, mais j'imagine que la réponse, c'est Twitter.
Twitter, Instagram.
Ton arrobase, c'est Lauriane_Ren, c'est ça?
Ouais.
Ok, je mettrai le lien dans la description, quoi qu'il arrive, mais le meilleur endroit, c'est Twitter pour échanger avec toi.
Ouais, carrément.
Top. Bien. Je te remercie beaucoup pour cette conversation.
Ben, de rien.
Et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à la semaine prochaine sur le podcast. Bye.
Bye.
J'espère que cet épisode t'a donné de nouvelles clés pour te demander si tu étais plutôt dans l'optique de te mettre en avant sous une marque comme Lauriane ou sous ta marque personnelle à ton nom plutôt comme moi. Comme c'est souvent le cas, j'ai simplement envie de rappeler qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Seulement votre réponse par rapport à vos aspirations, ce que vous avez envie de créer pour votre vie d'indépendant, ce que vous projetez pour le futur, tous ces questionnements-là que Lauriane a évoqués à la fin. Donc aujourd'hui, si vous vous dites « Ah, je devrais faire comme ça », mais qu'au fond ça vous inspire pas et vous le faites entre guillemets, parce qu'il faudrait le faire, ben, je vous invite vraiment à prendre le temps de vous demander quelle voix vous inspire le plus, et ce qui vous parle le plus en vue de ce que vous projetez pour votre futur et pour votre projet. Demandez-vous quelle est la décision qui vous mettra dans les meilleures prédispositions pour vous donner à fond et avancer vers ce qui est important pour vous dans votre vie de freelance. Et quand vous avez cette réponse, décidez une bonne fois pour toutes et faites en sorte que cette décision, ce soit vraiment la bonne. parce qu'encore une fois, ça c'est un autre sujet qu'on traitera peut-être dans le futur, dans un futur épisode, mais c'est à vous de faire en sorte que n'importe quelle décision que vous prenez soit la bonne décision, plutôt que de regretter d'avoir pris l'autre. Bref, on en parlera une autre fois. En attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine, et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.